dans le dernier chapitre de l'Évangile selon Luc, c'est-à-dire au chapitre 24, et nous allons commencer au verset 25. Voilà, c'est un texte que certains d'entre vous connaissent, puisqu'il nous parle, pour situer le contexte, eh bien, de ce premier jour de la résurrection, le jour où Jésus est ressuscité. Il y a eu là deux hommes qui n'avaient pas compris grand-chose et qui étaient découragés, alors que Jésus inaugure une nouvelle ère. La mort est vaincue, le péché est vaincu, Satan est vaincu. Et là, il y a deux hommes découragés. Ce sont ces fameux disciples d'Emmaüs qui retournent dans leur village, Emmaüs, qui signifie « peuple obscur, méprisé ». Et puis là, il y a un inconnu qui marche avec eux. Eux, ils ne le reconnaissent pas. Leur tristesse les empêche de reconnaître que c'est Jésus ressuscité qui marche avec eux. Ça ne nous est jamais arrivé, ça, de ne pas nous apercevoir que le Seigneur nous soutient, qu'il nous tient. Et nous, on se décourage, on se laisse aller à toutes sortes de déprimes, alors que le Seigneur est en train de nous parler. Voyez, ben, eux aussi, ça leur est arrivé. Et voici ce qui nous est dit au verset 25 de Luc, au chapitre 24. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin ?» Et nous expliquaient les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11, ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Détail intéressant. Simon, il avait vraiment besoin que le Seigneur lui parle, après le reniement, etc. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quel texte merveilleux. Amen. Hein, on ne sait pas trop si c'est la fin ou le commencement. Hein, on sait parce que ce texte, il se termine, mais il se termine dans la joie. On a l'impression que ça ne se termine pas. Alléluia. Et on sait que la suite va continuer, l'évangélisation du monde. C'est dans les livres des Actes des Apôtres. Mais je voudrais retenir avec vous cette phrase qui va nous aider à réfléchir, que je voudrais que vous puissiez retenir. Au verset 28, il nous est dit, lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Il parut vouloir aller plus loin. Et je crois qu'il y a vraiment une pensée maîtresse pour nous ce matin, c'est que le Seigneur veut nous voir faire des progrès, quoi que ait été notre passé, quoi que nous ayons vu, quoi que nous ayons fait, le Seigneur s'attend à ce que nous fassions les uns et les autres des progrès. Et vous avez remarqué ici que une des premières démarches que le Seigneur va entamer le jour de sa résurrection. Il est ressuscité d'entre les morts. Et pourtant, au lieu peut-être de parler à toutes sortes de foules, il prend le temps de marcher une quinzaine de kilomètres avec ses deux disciples presque anonymes. On connaît le nom de l'un d'entre eux, Cléopas. Ce ne sont pas des disciples de premier plan. Ils ne font pas partie des douze. Mais le Seigneur est inquiet de leur sort. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'aller de l'avant, ils reculent. Au lieu de monter, ils descendent. Et le Seigneur veut les remettre dans le sens de la marche, alors qu'ils sont en train de faire marche arrière. Il veut les ramener dans une position de victoire, c'est-à-dire qu'il considère comme tout à nouveau que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vivant, et que maintenant, il faut cesser d'être abattu, il faut cesser d'être dans une position de défaite, parce que ton Seigneur est ressuscité. Alléluia, amen. Et cela implique pour nous également que nous avons besoin de grandir avec le Seigneur. Il n'y a pas que les disciples d'Emmaüs qui ont besoin de grandir. Je sais bien que dans la vie physique, il y a une période de croissance et au bout d'un moment, cette période, elle s'arrête. Voilà. Certains disent, c'est dommage, je me suis arrêté là de grandir. Là, d'autres disent, j'aurais aimé avoir quelques centimètres de plus. Il y en a certains qui disent 1m59, je vais mettre sur la carte d'identité 1m60, c'est mieux. Hein. Voilà, on se grandit d'un centimètre comme ça. Hein. Mais je crois que si physiquement, il y a une croissance qui est là et qui, à un moment, s'arrête, spirituellement, je crois qu'il n'en est pas du tout ainsi. Nous avons tous besoin de faire des progrès avec le Seigneur. À aucun moment, Jésus dit à quelqu'un, c'est bon, tu es arrivé, tu atteins le top et c'est formidable. Jamais une telle chose ne s'est entendu dire dans le royaume de Dieu. Au contraire, l'apôtre Paul, par exemple, dira au jeune Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Donc l'apôtre Paul, malgré le fait que Timothée ait été appelé, qu'il ait été instruit dans les voies du Seigneur, s'attend à ce qu'encore, même s'il est un serviteur de Dieu, qu'il fasse encore des progrès. Alléluia. Lorsque nous lisons dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1er, au verset 3, l'apôtre Paul, encore lui, dit ceci, « Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. » Alléluia. Donc la vie normale, la vie spirituelle normale, c'est une vie qui grandit. Alléluia. Et je voudrais vous dire, alors quelqu'un dira, mais on va grandir jusqu'où ? Je voudrais vous dire ceci, c'est que pour connaître le Seigneur, l'éternité ne suffira pas. On a besoin de grandir. Vous inquiétez pas de ça. Occupez-vous de vouloir aller plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Et peut-être quelqu'un a-t-il besoin d'entendre cela ce matin. Le Seigneur veut que tu ailles plus loin avec lui. Non pas que tu sois stationnaire, et encore moins que tu recules, mais que tu avances avec lui. Plus loin, c'est mon premier point, pour connaître Jésus. La marche arrière des disciples est provenue d'une grande ignorance qu'il y avait dans leur cœur. Ils ne comprenaient pas les choses. Et ils ne comprenaient pas la raison des souffrances de Jésus. Et le Seigneur va leur reprocher, ô homme, je reprends ce texte dans Luc donc 24, et je le prends afin de ne pas tordre la parole. Et il nous est dit donc dans Luc 24, verset 25, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et donc on s'aperçoit qu'il y a une absence de connaissance et peut-être même un raisonnement superficiel. On croyait que c'était lui, le Christ. Mais bien sûr, c'était lui. Oui, mais il a souffert. Oui, mais il a été crucifié. Oui, mais, et puis on ne comprend pas, on est désespéré, on l'a mis dans le tombeau. Bon, il y a quelques femmes, mais ce sont que des femmes, vous savez, alors est-ce qu'elles sont dignes de foi, on ne sait pas, qui nous ont dit qu'il est ressuscité, mais nous, on ne l'a pas vu. Alors on est découragé, on est déprimé, et on descend comme ça jusqu'où. Et peut-être, je voudrais parler à un frère, une sœur, qui ce matin eh bien, passe par des temps de souffrance et qui se dit « mais je ne comprends pas la raison de ces souffrances, alors parce que je souffre, parce que je ne suis pas compris, parce que eh bien, voilà, je ne comprends même pas ce qui m'arrive, je décide de rétrograder, je décide de faire marche en arrière, je décide de m'enfoncer dans mon Emmaüs et dans ma solitude. » Mais je voudrais vous dire ceci, mes frères et sœurs, c'est que quant au Seigneur, les souffrances de Jésus ont une bonne raison. Il fallait que le Seigneur souffre la croix de Golgotha pour notre salut, alléluia. Il fallait que Jésus aille jusque-là et nous le savons. Je rappelle simplement des textes que vous connaissez très bien, mais dans Romains 5 et au verset 6, il nous est dit ceci, « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. » À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia! Il a fallu que Jésus souffrit la croix et qu'il paye eh bien, notre dette à la croix eh bien, du calvaire. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, dit la parole de Dieu. Et c'est lui que Dieu a destiné pour être une victime propitiatoire. Alléluia. Et nous trouvons là, eh bien, dans la personne de Jésus, l'accomplissement de la promesse qui avait été donnée dès le jardin d'Éden. Lorsque Dieu déclare au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Dieu annonce la venue d'un sauveur victorieux, mais qui souffre. Je ne sais pas si vous avez déjà été piqué par un serpent. C'est dangereux. Hein, je me souviens d'un garçon que certains ont connu qui avait été piqué par une vipère. On s'est tous inquiétés, on a prié pour lui. Le Seigneur l'a secouru. Gloire à Dieu, alléluia. Mais normalement, quand on est piqué par un serpent comme ça, on meurt. Jésus est venu pour prendre le poids de tes péchés. Et là où il y a le péché, il y a la souffrance. Vous le savez tous, oui ou non, là où il y a le péché, le mal, la désobéissance, il y a la souffrance. Et le Seigneur, lui, sans péché, est venu pour prendre tes péchés et c'est pour cela qu'il a souffert. C'est pour cela eh bien, qu'il a donné sa vie, c'est pour cela qu'il est allé à la croix, un instrument où meurent des coupables. Il est mort pour les coupables, il est mort pour les pécheurs afin d'expier leurs dettes. Et là, la ruse du diable avait fonctionné dans le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, l'honneur de Dieu est sali. Adam et Ève ne résistent même pas. C'est terrible, ça. L'homme perd sa liberté, il est esclave du péché. Et puis, la relation et la communion avec Dieu est rompue. Ils sont hors du jardin d'Éden. C'est terrible, cela. Mais Dieu, lui, restaure eh bien, les choses. Alléluia. Et sa victoire et son plan. Alléluia. Et Jésus rétablit l'honneur de Dieu. Amen. Lui résiste au diable. Alléluia. Amen. Et il va jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il obéit. Il libère les hommes eh bien, du péché en payant leurs dettes. Et il gagne leur cœur. Il a gagné nos cœurs par quoi? Par des coups de bâton? Pas pour ça. Vous savez, le Seigneur, quand il a touché mon cœur, c'est pourquoi? C'est parce que quand j'ai crié vers lui, alors que j'étais rebelle, loin de lui, j'ai dit au secours, tout de suite il a répondu. Alléluia, amen. Le Seigneur gagne nos cœurs par son amour merveilleux. Amen, alléluia, amen. Et alors que le Seigneur a fait tout cela, qu'il a rétabli eh bien, le plan de Dieu, qu'il a amené la victoire sur la terre, Satan est vaincu, le péché est vaincu, la mort est vaincue, voilà qu'il y a deux gars, des deux disciples Emmaüs. Et il y a peut-être quelqu'un comme ça. Et tout ça parce qu'on ne comprend pas. Et je voudrais te dire ce soir, ce matin, mon frère, ma sœur, le Seigneur veut te remettre en marche. Il veut que tu ailles plus loin avec lui. Alléluia. Ne t'arrête pas aux souffrances du moment. Ne t'arrête pas à tes incompréhensions du moment. Un jour, un homme découragé avec son petit garçon qui était possédé dira à Jésus, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. » Marc 9, 22. « Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Alléluia. Et le Seigneur veut rétablir la foi eh bien, dans sa personne, dans son autorité. Alléluia. À lui soit le règne. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui t'offre cette victoire parce qu'il t'aime. Et l'Écriture nous dit, par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens et au chapitre 1er, il nous dit ceci: Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia, amen. Et nous avons besoin de garder cette position de victoire et de dire: Seigneur, oui, je ne veux pas m'éloigner de cela, mais au contraire, je veux la reprendre et je ne veux pas m'arrêter aux événements du moment. Je ne veux pas laisser le diable me prendre eh bien, cette paix, cette joie, cette foi, cette victoire, mais au contraire, je veux la garder. Amen. Et quand Jésus parle, ça fonctionne. Parce que mon deuxième point, c'est que, eh bien, ils sont allés plus loin. En pleine nuit, Mehdi, imagine, il y a des sœurs, des fois, elles me disent: tu sais, pasteur, moi, je viens aux réunions de Dieu. C'est comme ça, les sœurs. Je viens l'après-midi. Mais quand il fait nuit à la paillade, je ne veux pas trop sortir. On les comprend, hein, quand on est à pied. Hein, quand on est en voiture, c'est autre chose, mais voilà. Bah, eux, ils sont sortis en pleine nuit. Eux, ils n'ont pas eu peur et ils avaient une position de victoire. Et l'Écriture nous dit qu'ils vont plus loin, mais avec leurs frères et leurs sœurs. Vous avez remarqué, quand le Saint-Esprit agit, il ne nous isole pas. Mais quand le Saint-Esprit agit dans notre cœur, au lieu de se disperser, on se rassemble les uns avec les autres. Alléluia. Et je voudrais dire ceci, c'est que le Seigneur veut que nous allions aussi plus loin eh bien dans la vie de l'Église. Alors c'est vrai qu'on a eu des temps qui nous ont secoués, mais gloire soit rendue au Seigneur. On est quand même resté assis avec le Seigneur. Et même si ces temps de confinement ont dispersé quelques-uns, mais voulons comprendre que le Seigneur veut nous dire il y a une position de victoire, mais il y a un lieu pour la victoire. Un lieu pour la victoire, c'est l'Église locale. Amen. Je voudrais vraiment que vous preniez en haute estime votre église locale. Dans le psaume 133 et au verset 3, il nous dit: c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le projet de Dieu, le plan de Dieu, c'est de bénir le monde à travers un peuple dont Jésus est le roi. C'est-à-dire un peuple qui porte la bonne nouvelle parce qu'il connaît autre chose que ce que ce monde connaît. Il connaît la vie, la bénédiction, l'amour et la grâce manifestés en Jésus-Christ. Et c'est au travers eh bien, de ce peuple-là eh bien, que Dieu veut bénir le monde entier. Alléluia. Et vous savez que c'est au travers de la postérité d'Abraham qu'il a été dit: toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs familles là. Amen. Et je trouve que l'Église, c'est merveilleux, parce que quand je vous regarde, vous êtes tous différents, vous avez tous des parcours différents les uns les autres. Il y en a qui ont grandi à la paillade, il y en a qui ont grandi en Côte d'Ivoire, il y en a qui ont grandi je ne sais pas où, et certains ils sont nés dans une caravane, d'autres, gloire à Dieu, alléluia, amen, amen. Et on est tous là rassemblés pour dire: mais c'est Jésus qui change les vies. C'est Jésus qui change les cœurs. Alléluia. Et nous voulons comprendre eh bien, que nous avons besoin de chérir notre église locale. Elle a une tête, c'est Christ, mais nous sommes son corps. Alléluia. Il y a besoin d'entrer dans le plan du Seigneur qui est celui de se mettre au service les uns des autres, d'être utiles les uns pour les autres. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Nous avons une place eh bien, dans le plan de Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit agit. Vous avez remarqué que tandis que tous ses disciples sont en train de parler, ils parlent de Jésus, ils se rassemblent. Ils ne parlent pas du loto, ils ne parlent pas de la météo. Ils disent: mais nous, on avait Jésus, il est ressuscité. Oui, mais c'est vrai, nous aussi, on l'a vu. Et puis, il est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. Alors, certainement que Simon, il avait vraiment besoin que Jésus lui parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Et quand Jésus lui-même apparaît, qu'est-ce qu'il dit? Que la paix soit avec vous. C'est des mots de consolation. Vous savez, l'Église, c'est un lieu où le Seigneur nous parle, nous console, nous fortifie. Il nous fait du bien. Alléluia, amen. Il peut nous reprendre aussi. Il nous dit: tu as besoin de faire des progrès. Oui, Seigneur, c'est vrai. Ça doit changer. Mais on peut prier, on peut pleurer, on peut combattre. mais on peut vaincre tous ensemble avec Jésus. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et combien de frères et de sœurs m'ont partagé cela ? Ils m'ont dit, mais j'étais dans ma chambre d'hôpital, j'étais dans la maladie, mais j'ai ressenti les prières de mes frères et de mes sœurs. Alléluia. Moi, je ne pouvais plus prier, mais l'Église a prié. Alléluia. Amen. Mais il y a un lieu pour la victoire. Et je voudrais dire peut-être à quelqu'un qui se dit, mais enfin, voilà, mais moi, au niveau des enseignements, j'entends des choses, Internet, ceci, cela. Mais ça remplacera jamais la communion fraternelle. Alléluia. Vous avez remarqué que Jésus va manger du poisson grillé et du miel. Le miel, ça parle de communion. Ça parle de communion. Voilà, ça. La douceur de la relation, de la communion fraternelle. C'est doux, voilà. Et le poisson, ben vous savez, on est tous des poissons. La douceur des rachetés. Oui, vous êtes des poissons, pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez été pêchés. Alléluia, vous avez été sortis du grand bain, amen, des ténèbres pour marcher à la lumière. Et on a besoin de tout cela. Et peut-être, c'est quelque chose que nous, occidentaux, avec notre esprit individualiste, nous avons besoin de remettre comme une mise à niveau de notre logiciel. J'ai besoin de prendre ma place dans l'Église. J'ai besoin de me mettre à la disposition du Seigneur dans l'Église, auprès de mes frères et de mes sœurs. Alléluia. Je vais avancer pour dire, alors je ne sais pas si vous avez assisté à un miracle, mais peut-être. Voilà. Mais ça va être dur, mais bon, on va y arriver quand même. Hein. Donc, plus loin pour servir le Seigneur. Alors, plus loin. Alors, on a vu que le Seigneur donne une position de victoire, un lieu de victoire, mais il faut des armes pour la victoire. Il faut des armes pour la victoire. Et vous savez tous que la vie chrétienne, c'est un combat. Oui ou non ? Hélas, on a des frères et sœurs qui se sont laissés emporter, faute de veiller. La dernière fois, je prêchais sur ce fait, sur ce thème. Comment des héros sont-ils tombés ? Lui, il avait cessé de oindre leurs armes, leurs boucliers, etc. Et c'est vrai, comment un garçon comme Jonathan est tombé, l'ami de David, comment Saül, qui avait reçu l'onction, est tombé ? Ben, c'est explicable, mais voilà, c'est leur vie spirituelle qui n'avait pas été entretenue. Mais lorsque je lis ce texte dans Luc 24, eh bien, je m'aperçois que le Seigneur ramène les disciples dans une position de victoire. Il leur donne un lieu pour que cette victoire soit vécue, mais également, enfin, un lieu, c'est un corps, alléluia. Mais il donne également trois points essentiels, trois armes. Et vous avez remarqué, donc verset 44, il nous est dit, c'est là ce que je vous disais encore, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Et ensuite, il dit au verset 47, il dit ceci, le pardon des péchés doit être prêché en ce moment à toutes les nations, et puis j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Il y a trois points là. Le premier point, pour rester fort, c'est d'avoir une doctrine solide. Le Seigneur, dans son ministère terrestre, renvoie toujours à la parole de Dieu. Son autorité provient de la parole de Dieu. Il est venu non pour abolir, non pour accomplir. Et je crois qu'une Église en bonne santé et des chrétiens victorieux, ce sont des hommes et des femmes qui sont attachés à une doctrine solide, à la parole du Seigneur. Je sais en qui je crois. La doctrine de Christ. Alléluia. Pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais je m'aperçois que des fausses doctrines sont capables de faire des ravages et de ruiner la vie spirituelle de chrétiens qui sont pourtant bien partis. Je me souviens, il y a quelque temps en arrière, il y avait cette fausse doctrine qu'on a nommée l'hérédité. Vous voyez ? Quelqu'un était tout content, avait accepté Jésus pour son sauveur, pour son Seigneur, et devient une nouvelle créature. Il marche avec Dieu, un monzone, il est heureux dans son taxi, dans son... Voilà, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lui dit « Ouais, mais attends, c'est bien ça, mais tu te rends compte que ton arrière-grand-mère, elle tirait les cartes ? Tu te rends compte qu'elle invoquait les esprits, elle faisait du spiritisme ? Mais écoute, il y a encore des liens qui sont là. Tu vois ? Et regarde, là, je t'ai vu tout à l'heure, là, quand on a passé à table la bouteille de vin, là, tu l'as regardée d'un drôle de regard. T'es vraiment délibéré de l'alcool ? Vous voyez ? Mais tu sais que ton père, c'est un alcoolique. Hein ? Et alors, les gens se disent, mais alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je demande pardon pour les péchés à la première, à la deuxième, à la troisième génération en arrière, etc. Et des gens qui étaient bien partis, faute d'une doctrine solide, se sont laissés séduire, ils sont entrés dans des trucs qui les ont complètement ravagés de l'intérieur. Et mes frères et sœurs, alors je reprends ce texte de l'hérédité là, mais l'Écriture nous dit que si on a accepté Jésus, on est devenu une nouvelle créature, alléluia. Les choses anciennes sont passées. Et dans le grec, ça veut dire c'est terminé. Il n'y a plus aucun rapport. C'est terminé. Tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Il a brisé les liens. Il a brisé les chaînes. Amen. Alléluia. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu. Et donc, c'est pas la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais ça vient de Dieu. Alléluia. Tu appartiens au Seigneur. Et donc, il n'y a aucun rapport avec tout cela. Et l'Écriture nous dit, bien, toutes choses sont devenues nouvelles. Il te construit, il te reconstruit. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Il y a d'autres fausses doctrines qui ont tourmenté les chrétiens. Je pense à la prospérité. Un chrétien ne doit pas être malade. Et mon œil, ben, si. Un chrétien peut être malade. Voilà, ce matin, j'ai deux de mes enfants, ils ont la grippe, on leur a dit, ne venez pas à l'église. Voilà. On peut être malade. J'ai laissé Trophime malade à Milet, dira l'apôtre Paul. Pourtant, Paul, des fois, on ne comprend pas pourquoi. Un frère, une sœur peut passer par la maladie, ce n'est pas parce qu'il a péché. On est encore sur la terre. Il y en a certains, et ils ont besoin de petits appareils. Voilà, ce n'est pas parce qu'ils sont plus pécheurs, mais c'est la carrosserie qui... voilà, hein. Il y a un vieux pasteur qui disait ceci, on lui posait la question, mais comment vous allez, frère ? Voilà, il disait, il parlait de son corps comme une espèce de bicoque, vous voyez ? Et il disait, mais la maison se déglingue un peu, mais le locataire va bien. Voilà, on est en location dans ce corps. Hein ? Un jour, on le laissera et puis on sera propriétaire dans le ciel. Alléluia ! Amen, gloire à Dieu. Donc, le deuxième point, c'est que au lieu d'entrer dans toutes sortes de théories, mon rôle, le rôle de l'Église, la politique, hier on en parlait avec les jeunes, etc., sujet de l'Apocalypse, ceci, cela, mais le Seigneur nous laisse une mission quand même, évangéliser. Il faut que le pardon des péchés soit prêché à toute la création. Et mes frères et sœurs, si on a ça en objectif, en ligne de mire, et mes frères et sœurs, on ne va pas se perdre dans toutes sortes de conjonctures. Nous avons besoin de comprendre que toutes les générations ont besoin d'être évangélisées. Merci, et vous le savez très bien. Vous pouvez avoir donné la meilleure des éducations et les meilleures valeurs à vos enfants en leur disant, eh ben, ça c'est bien, ça c'est mal. Regarde, la Bible dit, et c'est des structures, c'est un cadre, c'est une éducation. Mais vous savez très bien que l'éducation que vous donnez à vos enfants ne remplacera jamais une rencontre personnelle avec Jésus. Et ça, ça s'appelle de l'évangélisation. C'est parler au cœur, c'est être rempli du Saint-Esprit, c'est les amener à une rencontre avec Jésus. On peut avoir des structures, des cadres, des écoles, tout ce que vous voulez. Ça s'appelle de la christianisation. Mais ce n'est pas des valeurs qui nous sauvent, c'est une personne qui nous sauve. C'est la personne de Jésus qu'il faut rencontrer, alléluia. Et l'Église, eh bien, elle est porteuse d'un message. Je réfléchissais à ça, les premiers disciples, les premiers apôtres quand même, ils n'avaient pas de moyens financiers, ils n'avaient pas de bus, ils n'avaient rien, mais ils avaient un message. Et ils avaient le Seigneur avec eux. Ils ont prêché ce message. Et dans des lieux difficiles comme le monde de l'Antiquité, en Turquie, en Grèce, dans l'Empire romain, le message a fonctionné. Des hommes et des femmes ont été touchés par la grâce de Dieu. Amen. Allez, et mon troisième point, c'est de dire que les armes de la victoire, bien sûr, ce sont les armes du Saint-Esprit, nous qui sommes pentecôtistes, combien nous avons besoin de ne pas abandonner cet héritage qui est le nôtre, de dire, Seigneur, nous avons besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit, d'être renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais comment, Seigneur ? Mais c'est par le Saint-Esprit, alléluia. Et je vous lis simplement un texte afin que nous soyons encouragés dans ce domaine. Dans Marc, au chapitre 13 et au verset 11, il est dit ceci, quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Amen, alléluia. Et le Saint-Esprit, moi je crois, il parle mieux que nous. Moi je suis persuadé que Pierre, lorsqu'il a comparu devant le Sanhédrin, il n'avait pas préparé. Hein. Mais l'Écriture nous dit, rempli du Saint-Esprit, il leur dira, il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, car il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit est capable de nous donner les armes au temps convenable. Alléluia, une parole de connaissance, le discernement. Et combien nous avons besoin de ces dons spirituels. Alléluia, le surnaturel de Dieu au milieu de nous. Amen. Amen. Alors tout ça, ce sont eh bien, des moyens que le Seigneur nous donne et au travers de lui-même pour que nous puissions aller plus loin. Plus loin avec lui. Plus loin dans la connaissance de la parole, plus loin dans l'exercice des dons spirituels, plus loin dans le témoignage, plus loin dans la vie de l'Église, plus loin dans la connaissance de mon Seigneur. Parce que je crois que les uns et les autres, ce que l'on veut, c'est aller plus loin avec lui, mais jusque avec lui pour l'éternité. Tout à l'heure, j'ai dit, bien qu'on a l'impression que ce texte, il ne se termine pas, ils sont toujours dans le temple, en train de louer Dieu. Et je crois que c'est intentionnel dans le cœur de Luc. Bien sûr, ça ne va pas s'arrêter là, ça va continuer. Mais il veut nous dire quelque chose. Il veut nous dire, un jour, on sera dans un tabernacle, un temple, qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui est dans le ciel. On sera dans la présence de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est parlé de ce lieu, Apocalypse, on ne va pas le lire, mais 21, chapitre 3, versets 3 et 4, où il nous est dit qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Alléluia. Mais pour cela, mes frères et sœurs, et je voudrais le laisser sur votre cœur, il faut oublier ce qui est en arrière et nous porter vers ce qui est en avant. En disant, Seigneur, merci pour les bonnes choses eh bien, que tu m'as fait vivre. Merci même pour les victoires, les délivrances que tu m'as données lorsque j'ai été à terre, les mauvaises choses. Tu m'as relevé, tu ne m'as pas laissé tomber, Seigneur. Alléluia. Mais maintenant, ce que je veux faire, c'est aller plus loin avec toi. Alléluia. Je veux aller de l'avant et marcher dans tes voies. Le but, c'est le ciel. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne nous arrêtons pas au point où nous en sommes parvenus, mes frères et sœurs. Nous voulons progresser. Nous voulons avancer. Dans un instant, on aura l'Assemblée générale. Mais que cette pensée puisse eh bien, nous imprégner. Nous voulons faire des progrès avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Vous voulez bien qu'on prie, qu'on rende grâce ? Seigneur Jésus, nous te louons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ta bonté, ta parole. Seigneur, la joie que nous avons de t'appartenir. Et Seigneur, les défis que tu mets devant nous, Seigneur, nous permettent de vivre une vie de victoire. Et Seigneur, je te prie pour un frère, une sœur qui peut-être a beaucoup de défis à relever dans sa vie de famille, dans son témoignage personnel, dans l'éducation de ses enfants, peut-être même au travers d'une maladie qui est là, d'un souci financier. Seigneur, ta parole nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Seigneur, tu nous dis que même s'il y a de la souffrance, Seigneur mon Dieu, tu es avec nous. Toi-même, tu as souffert et tu as vaincu. Seigneur, la mort n'a pas pu te retenir, le diable a perdu dans toutes ses ruses devant toi. Seigneur, le péché, Seigneur, tu y as résisté. Et tu as relevé l'honneur de ton Père. Et Seigneur, cette victoire, eh bien, tu veux nous la communiquer. Alors Seigneur, je te rends grâce du plus profond de mon cœur. Parce que Seigneur, nous ne sommes pas arrêtés. Et ce matin, Seigneur, voulons te dire, Seigneur, tous ensemble, nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur. Nous voulons faire des progrès avec toi. Vois celui, celle qui s'est arrêté peut-être, qui s'est découragé. Mais tu le restaures, tu la restaures. Et Seigneur, tu lui donnes d'aller plus loin avec toi. Amen. Quelques secondes avant qu'on termine vraiment, mais que vous puissiez dire à votre place, Seigneur, je veux aller plus loin. Je ne veux pas abandonner la marche. Ni avec toi, ni avec mes frères, ni avec mes sœurs, ni pour te servir, ni pour remporter le but final. Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Alléluia. Alléluia. Je prends encore un tout petit peu de temps, mais s'il y a quelqu'un qui a besoin que l'on prie pour lui, pour elle, vous levez votre main en disant, voilà, j'ai besoin que le Seigneur me visite. Oui, j'ai vu ta main. Amen. Gloire à Dieu. Oui, j'ai vu votre main aussi. Oui, j'ai vu votre main. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah oui, je vous ai vu. Seigneur, je veux t'apporter ces bien-aimés, Seigneur, qui remettent leur vie entre tes mains. Et ils veulent relever le défi. Alors, Seigneur Jésus, je te demande de ce matin, Seigneur, de qu'il y ait vraiment le miracle, une action du Saint-Esprit dans leur cœur qui relève leur tête, qui relève leur visage, qui relève leur foi pour leur permettre, Seigneur, d'atteindre le but. Seigneur, à toi toute la gloire. Tu es vivant, Seigneur. Et nous te remercions Que ton nom soit loué et glorifié dans le nom de Jésus. Amen.